Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le commentaire de
Michel Girard, une vision des finances pas comme les autres.
Salut Michel.
Bonjour Philippe Vincent.
Bon là, j'ai parlé tantôt de l'aspect politique de cette taxe anti-vax. On va parler de l'aspect légal tantôt, mais je vais parler de l'aspect financier. Comment ça marche? Comment ça peut marcher? Comment ça peut fonctionner? Est-ce que c'est réaliste, cette contribution santé-là pour les anti-vaccins?
Bon, là, j'aimerais préciser, premièrement, on a déjà eu une contribution santé qui avait été implantée, n'est-ce pas?
Ben oui, par M. Charest et M. Bachand,
ben oui, en 2010, puis en 2012, la contribution santé était de 200 $. Et puis après ça, il y a eu des élections et Pauline Marois, qui a été élue dans un gouvernement minoritaire, a modifié, a remodelé le système de la contribution santé de sorte que la contribution était progressive en fonction de tes revenus, allant jusqu'à 1000 $ pour les gens gagnant 150 000 $ et plus.
Bon, c'est M. Couillard qui l'a enlevé.
Et c'est Couillard qui l'a enlevé en 2017. Dans le cadre du budget de Carlos Letao. Or, donc, tout ça pour dire qu'on a déjà l'expérience d'une contribution santé. Or, c'est sûr que cette contribution santé, à l'époque, était universelle, si l'on veut. Maintenant, là, on parle plutôt d'une contribution santé bien spécifique qui toucherait évidemment les non-vaccinés ne disposant pas d'une dispense, parce qu'évidemment, ça ne serait pas imposé aux non-vaccinés qui disposent d'une dispense. Mais cela étant dit, moi, c'est sûr que là, on voit bien, il y a toutes sortes évidemment d'opinion à l'effet. Entre autres, ça passera pas la rampe des tribunaux, bon, prétextant que ce serait discriminatoire, etc. Bon, premièrement, faut dire que, tu vois, c'est comme dit Legault, c'est pas vrai que 10% de la population va nuire à l'autre 90% en engorgeant nos hôpitaux. La grande question, elle est là, parce que le problème, il est fondamentalement là. Alors, j'aimerais rappeler, parce que bien des gens, ils disent, bon, ça passera pas, bon, mais regarde, là, actuellement, là, dans notre système de fiscalité, il y a une panoplie de taxes spécifiques.
Ouais.
Je te rappelle, les gens qui fument, ils payent des taxes que les non-fumeurs ne payent pas.
Oui, mais ils payent quand ils achètent leur paquet de cigarettes.
Oui, mais bien sûr. Mais là, ils payent.
Mais c'est différent.
Ouais.
Non? Ben, je sais pas, je pose la question. Là. J'essaie de.
Ben, c'est-à-dire, c'est différent. Là, toi, tu veux me dire, ben, d'abord, ce qui veut dire qu'ils pourraient payer une taxe. Avec une contribution ou une taxe santé, peu importe, quand ils utilisent les services, alors là, ça revient à celui qui fume et qui paye des taxes spécifiques. Alors, mais tu sais, regarde d'autres taxes spécifiques. Les banques, là, ils vont payer une taxe spécifique de 3% de plus bientôt, là, par l'entremise du gouvernement fédéral. Pourquoi les banques payent 3% de plus alors que les autres entreprises? Tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu pourrais évoquer aussi la discrimination entre les entreprises.
Ouais.
Or, évidemment, moi, c'est pas moi qui vais juger ça, là, mais ce que je veux dire, il y a une contrainte, mais cette contrainte-là, elle existe dans le système actuel de fiscalité. Alors, maintenant, comment tu peux appliquer ça? Là, en lisant, évidemment, on se rend compte, on sait que le Revenu Québec n'a pas accès, évidemment, aux données de du ministère de la Santé, n'est-ce pas?
La Régie de la Santé, quoi qu'ils l'ont accès pour l'assurance médicaments. Donc, la Régie transmet déjà à Revenu Québec et dit, voici ceux qui ont accès à l'assurance médicaments.
L'état des gens, par exemple.
Ouais.
Alors, regarde, moi, selon moi, la question est facilement à résoudre. Est facile à résoudre. Je t'explique. Quand tu remplis ta déclaration, on te pose à un moment donné une question. Es-tu résident du Québec au 31 étais-tu résident du Québec au 31 décembre de 2021? Bon, alors tu réponds oui ou tu réponds non. Alors, mais tu pourrais poser la même question. Étiez-vous vacciné au 31 décembre 2021 ou 2022, dépendamment à quel moment qu'on l'appliquerait? Alors là, tu peux répondre oui, puis tu peux répondre non. Alors, puis tu peux tricher. Le problème, c'est que si tu triches, tu crées une fraude fiscale. Puis là, tu as encore des risques. Si ils trouvent que tu as fait une fraude, ben tu as encore des gros risques financiers. Ce que je veux dire, c'est que la question est pas très compliquée à poser. Puis là, évidemment, reste. C'est sûr que ça peut être. Bon, Revenu Québec pourrait entreprendre des vérifications ou des gens pourraient les dénoncer. Tu sais, entre nous, le système fiscal, là, je vais te dire franchement, là, une grande majorité des vérifications se font après que les gens se soient fait dénoncer. Hein?
Ouais.
Bon, alors donc à ce moment-là, quand tu fais une fraude, ben là, tu t'en vas devant les tribunaux, puis c'est une autre histoire. Donc, je ne vois pas trop de problèmes pour l'appliquer.
Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, tu sais, de mensuel, par exemple, parce que l'enjeu, c'est, par exemple, moi, je n'étais pas vacciné, je sais pas, moi, au 1er avril 2022, mais je me suis fait vacciner le 4 avril 2022. Est-ce qu'il faut que je paye toute la taxe? Est-ce que ça vaudrait pas mieux de la faire, par exemple, mensuelle? Puis si jamais, moi, j'ai un code QR, ben t'arrêtes de la payer, puis c'est fini, on t'en parle plus, ou on envoie ça à tout le monde.
Ça pourrait être une solution, mais ça devient plus compliqué à mettre en place comme système.
Okay.
Le système demeure... regarde, là, le jour où tu vas être... Si, dans par hypothèse, le gouvernement y va de l'avant, là, et puis introduit la contribution santé anti-vax, là, c'est même que je l'appelle, là, moi. mais c'est ça. Alors, je vais te dire une affaire. Les gens là qui voudront pas payer la contribution, ils vont se faire vacciner. C'est bon. Là, la grande question, c'est évidemment, est-ce que tu charges 50 piastres?
Non, mais tu pourrais modeler ça en fonction de l'impôt, en fonction du revenu. Tu sais, tu pourrais y aller en fonction du revenu.
Ben, effectivement. Donc, ça peut être une taxe progressive, effectivement, en fonction de ton revenu, comme l'était la contribution santé. Que je rappelle, sur les derniers 1000, là, c'était le montant était progressif en fonction de son revenu. Ben oui, parce que si tu mets un montant fixe, tu sais, 200 $, c'est rien pour quelqu'un qui en gagne 100 000. Là.
Non, c'est ça. Ce qui est significatif pour toi n'est pas significatif pour moi. Là.
Ben non, mais effectivement. Alors que 200 $ peut être très significatif pour quelqu'un qui est sur l'aide sociale. Tu sais, on s'entend, là?
Exact.
Alors, tout ça pour te dire qu'il y a quand même... Bon, on a beaucoup de barrières à franchir, là.
Puis est-ce qu'il n'y a pas un risque que les gens, tu sais, qui ne payent pas d'impôts ou qui ne remplissent pas de déclaration de revenus parce qu'ils ne font pas assez d'argent, se disent, ben, moi, de toute façon, je touche pas assez les impôts par année parce que j'en fais presque pas d'argent puis ça vaut pas la peine?
Non, effectivement. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a 50% des gens qui, à cause des crédits d'impôt, etc., et de leur situation fiscale, fait en sorte que, en bout de ligne, ils payent pas une cent d'impôt. Mm. Ben, sauf que tu pourrais, effectivement, ces gens-là n'en paieraient pas. Donc, faut que tu trouves un mécanisme pour les pénaliser, sinon t'as pas d'impact. T'as deux couches là où t'as un problème. Tous ceux qui payent pas d'impôt. Qui quand même représente, comme je te dis, 50% des contribuables. Et une fois les crédits appliqués, des crédits d'impôt appliqués, puis t'as ceux qui gagnent des gros revenus qui s'en fichent comme dans l'an 40 parce que ça représente pas. Donc, t'as ces deux extrêmes-là à régler. Alors, c'est pour ça que la mesure est pas si simple que ça à établir, mais tu dois mettre en place une mesure qui fait qu'il les pénalise pour vrai, tu sais. Regarde, c'est pas une solution facile à trouver. Mais par contre, moi, je pense que s'ils ont à appliquer une telle mesure, il faut qu'elle soit universelle dans le sens qu'elle vise tous les gens, sauf ceux qui sont dispensés, là, les non-vaccinés. Parce que y aller comme Daniel Payet, lui, l'ancien ministre Payet, recommandait que tu reçoives, dans le fond...
Oui, c'est ça, une facture en sortant de l'hôpital.
Oui, c'est ça. Alors, c'est beau, mais là, le problème, c'est qu'il faut que tu mettes en place un système. Imagine-toi, là, faudrait que tu mettes en place un système de facturation. Moi, je pense pas que notre système de santé est équipé actuellement pour y aller avec une facturation at large. Là.
Non. Puis de toute façon, Michel, tu sais, ceux qui se rendent au système de santé, souvent vont dire « Hey, on le savait pas avoir su » ou « Si on avait eu des incitatifs avant. » Ils ont déjà payé avec leur santé d'une certaine façon. Fait que c'est pour ça qu'il faut le faire avant pour qu'ils aillent se faire vacciner et non pas pour les écœurer encore plus s'ils sont tombés malades. Là.
Ben non, une fois que t'es malade, là.
Ben, c'est ça.
Alors, et comme par hasard, tu comprends plus facilement la nécessité de se faire vacciner. Ouais. Mais ça, c'était un autre débat, ça. Alors, mais tout ça pour te dire, moi, je pense que c'est applicable, mais il faut que tu trouves la mesure qui va vraiment te forcer, t'inciter là, à te faire vacciner. Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Là.
Michel, bonne journée. Merci d'avoir clarifié tout ça pour nous.
Merci, bye.
Salut.